franceinter.fr.
Le déclin fulgurant des passereaux des villes aujourd'hui à la une de la science.
Ça, ce sont des moineaux. Dis moineaux.
Moi.
Dis moineaux, moineaux, moineaux. Moineaux, moineaux, moineaux. Moi, non. Moineaux, 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 moineaux.
Voilà, et c'est le premier mot qu'apprend à dire Bambi, le moineau, et en 10 ans, c'est 70% de la population de ces petits passereaux qui a disparu à Paris, un chiffre choc publié aujourd'hui par deux associations de protection et qui pose cette question sur la baisse de la biodiversité en ville. Axel Villa, on en discute avec un des commanditaires de cette étude, Philippe Mantigneux.
Bonjour à vous Philippe Mantigneux.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire du Centre ornithologique d'Île-de-France et entre autres, depuis 14 ans, vous comptez les moineaux à Paris. Quand est-ce qu'il a commencé réellement ce déclin fulgurant?
Alors, l'enquête a commencé en 2003. À Paris, on a eu des premiers résultats qu'on a publiés en 2008, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans d'observation. Et à cette époque, la population de moineaux était encore relativement stable à Paris, sauf dans deux quartiers qui étaient situés dans le 11e arrondissement et dans le 15e arrondissement, où là, il y avait eu une première chute assez spectaculaire et qui nous avait évidemment interpellés. Donc on avait observé un petit peu ces deux quartiers, on avait remarqué qu'il y avait une modernisation de ces deux quartiers pendant cette période et on a commencé à se poser des questions.
Parce que vous suivez vraiment les moineaux quartier par quartier?
Alors oui, on suit les moineaux assez précisément. On a mis au point un protocole qui est assez simple à utiliser pour les observateurs. On a réparti 200 points d'observation de manière géométrique à l'intérieur de la capitale. Et chaque année, ces 200 points sont suivis par une cinquantaine d'observateurs au printemps.
Alors pourquoi les moineaux disparaissent de Paris?
Alors, il y a sûrement beaucoup de raisons et on ne les connaît pas toutes, évidemment. Celles qu'on met le plus facilement en avant, parce qu'elles nous paraissent les plus évidentes, c'est une perte d'habitat, d'une part, donc perte des sites de nidification, perte des endroits où les moineaux peuvent se reposer, peuvent former leur dortoir, et puis également aussi une baisse des populations d'insectes à l'intérieur de Paris, et les insectes sont très importants pour les moineaux à l'époque de l'élevage des jeunes. Les jeunes sont nourris avec beaucoup de moineaux parce qu'il y a beaucoup de protéines dans les insectes.
Alors comment vous expliquez ça justement par rapport à la façon dont on construit les bâtiments aujourd'hui et à la modernisation? Il y a moins d'espace de niche pour ces oiseaux?
Absolument. Alors le problème se pose en construction, comme vous venez de le dire, mais aussi en rénovation. Mmh. En rénovation, on voit bien que pour des fois des buts tout à fait louables, on supprime des cavités, des petites bouches d'aération dont les grilles étaient tombées, des petits interstices qui s'étaient créés dans les murs ou entre les autour des fenêtres, etc. Tout ça, on a tendance à boucher et ça fait de l'habitat en moins pour les moineaux. Donc ça, c'est dans la rénovation. Et puis, dans la construction moderne, on voit bien apparaître des beaux immeubles avec des façades tout en verre, bien lisses. Et là, il n'y a pas beaucoup de place pour la biodiversité, effectivement.
Et ce problème de logement dont vous parlez, il est valable pour tous les petits oiseaux ou seulement le moineau ?
Non, il y a plusieurs espèces qui vivent sur les immeubles, comme par exemple les hirondelles ou les martinets. Hein. Les martinets occupent des cavités qui sont souvent un peu les mêmes que celles des moineaux, mais pas à la même période de l'année. Et puis les hirondelles, elles fabriquent des nids. Et là, il y a un autre problème, c'est qu'il y a une petite tendance à les détruire parce qu'on trouve que ça fait pas propre. Mais c'est un peu dommage.
Vous parliez de la biodiversité et des insectes, ça veut dire que c'est toute la biodiversité des villes qui baisse en ce moment depuis des années?
Oui, nous c'est pour ça aussi qu'on s'est intéressé au moineau, parce que bon, le moineau, tout le monde aime bien le moineau, mais c'est quelque chose que tout le monde perçoit, cette disparition du moineau, mais c'est symbolique, c'est un symbole, c'est-à-dire que c'était facile à observer, facile à mesurer, mais effectivement, derrière la disparition du moineau, on voit bien qu'il y a la disparition des insectes, il y a aussi la disparition de certaines formes de végétation, puisque le moineau se nourrit aussi de graines, et il y a jusqu'à pas très longtemps, il y avait une lutte assez effrénée contre ce qu'on appelait les mauvaises herbes, mais ces mauvaises herbes produisent de la graine et de la nourriture pour les oiseaux et les moineaux en particulier.
Péridruby, vous aimez les moineaux? Je vous vois hocher de la tête.
Oui, je suis bien triste d'entendre ces mauvaises nouvelles. J'ai juste envie d'intervenir pour dire qu'à Lyon, ça n'est pas encore le cas. Il y en a beaucoup sur mon balcon.
Voilà, puisque c'est là que vous habitez. Vous dites qu'il y a beaucoup de moineaux sur le balcon. Est-ce que vous avez fait la même étude dans d'autres villes de France, Philippe Maintigneux?
Non, malheureusement non. Nous représentons une association d'Île-de-France et la LPO. Et nous faisons cette enquête avec la LPO. Il n'y a pas encore eu, que je sache, d'autres enquêtes dans d'autres villes de France, mais il y en a eu dans d'autres villes en Europe depuis la fin des années 90. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans pas mal de grandes villes d'Europe, hein, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, en Finlande, etc. Il y a pas mal de grandes villes où le phénomène est similaire.
Est-ce que si on a un balcon ou même une maison, on peut faire quelque chose à titre personnel pour les passereaux des villes?
Alors on peut faire pas mal de choses. Ça va de d'installer des nichoirs, mais il y a des nichoirs, il y a des petites contraintes au niveau des nichoirs dans la mesure où le moineau est une espèce coloniale. Donc un nichoir tout seul, ça va pas servir à grand chose. Il faut vraiment l'adapter à cette espèce coloniale. Et puis il y a aussi d'intervenir auprès des gens qui gèrent les espaces verts qu'on a autour de nous, soit ceux qui sont en bas de son immeuble, alors ça peut être les bailleurs sociaux, ça peut être le syndic de l'immeuble quand on est propriétaire, ça peut être d'autres, son employeur si on voit qu'il y a un espace vert dans ses bureaux, en fait, etc. De manière à la fois aménager et rénover les immeubles d'une manière favorable à la biodiversité, puis gérer les espaces verts aussi dans le même sens.
On peut faire des nichoirs collectifs aussi avec des étages, des petits escaliers, enfin on peut aménager les choses comme
ça. C'est ça, le moineau est grégaire et voilà. Il a besoin de vivre en communauté.
On peut aussi peut-être vous aider à les compter, non?
Alors, on peut aussi nous aider à les compter. On a actuellement une équipe d'une cinquantaine d'observateurs. Il y a toujours un petit peu de renouvellement. Il y a 200 points à observer. Ça fait pas mal de points à observer. Donc, on a besoin de monde. On a aussi besoin de... on va peut-être probablement développer l'enquête. Elle va se continuer, hein, évidemment. On va continuer à compter les moineaux. Et on va aussi probablement commencer à étudier les colonies de moineaux, puisque, comme je vous le disais, c'est un oiseau grégaire. Et ce qui nous intéresse de savoir, c'est comment évoluent ces colonies, puisque en deçà d'un certain seuil, une colonie disparaît tout d'un coup. C'est-à-dire, si la colonie ne comprend pas assez de membres, elle va disparaître tout d'un coup. Donc on aimerait bien connaître l'évolution des colonies, quelles sont leurs conditions favorables, etc.
Bon,
donc effectivement,
ouais.
On a besoin de monde.
Ah, mais pour les volontaires, il y a le site internet, hein, c'est CORIF, www.corif pour le Centre Ornithologique d'Île-de-France. Je suis sûr que vous avez plein de moineaux à la Pitié Salpêtrière, Yves Agide. Hein.
Oui, plein d'oiseaux. Moi, je me demandais si les moineaux n'étaient pas gênés par d'autres espèces qu'on voit de plus en plus fréquemment à Paris.
Vous pensez aux corneilles ou à d'autres?
Oui, par exemple.
Philippe Maintigneux.
Oui, non, pas spécialement. On pense souvent aux pies. Les pies, il n'y a pas spécialement. Les études ont été faites d'augmentation des populations de pies. La prédation est quelque chose d'assez normal. Hein. On pense souvent aussi à l'augmentation de population d'éperviers, l'apparition d'éperviers, etc. Mais c'est vraiment totalement marginal. Quelque chose. Les éperviers représentent une demi-douzaine de couples dans Paris. C'est totalement marginal. Et ça fait partie, ça, du fonctionnement normal de la biodiversité. Je crois que quand on cherche de ce côté-là, on est un peu sur des mauvaises pistes. Il y a d'autres causes qui font beaucoup plus de dégâts.
Merci Philippe Maintigneux. Dommage, hein, parce qu'on les aime ces moineaux, donc on va essayer de faire des petits nichoirs collectifs pour eux, c'est promis. Merci à vous.
Je
et puis
vous
donc le site CORIF, www.corif, il est sur le site de La Tête au Carré. Merci Axel.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, la semence humaine peut accueillir plus de 47 types de virus et de germes. Bien sûr, le VIH du sida peut être transmis par le sperme, mais une nouvelle méta-analyse élargit cette capacité à de nombreux autres de ses compatriotes. Zika, Ebola, l'herpès, l'hépatite B font partie des plus connus, mais d'autres moins soupçonnés, comme le virus de la dengue, la grippe et d'autres maladies respiratoires, peuvent aussi se développer dans les testicules et peuvent donc être transmises via le sperme. Plus d'études seront nécessaires pour savoir si une infection peut effectivement se développer via une contamination par voie sexuelle. Les grenouilles préhistoriques géantes étaient sûrement capables de broyer des dinosaures avec leur bouche. En étudiant la puissance des mâchoires des grenouilles cornues actuelles, une équipe de chercheurs australiens a été étonnée de la puissance de celles-ci, qui sont capables d'exercer une pression de l'équivalent de 50 litres d'eau posée en équilibre au bout de vos doigts. Grâce à cette découverte, ils estiment que les Bilzébuffo-Ampinga, des grenouilles géantes vivant au Crétacé supérieur, avaient des mâchoires au moins aussi puissantes que les loups ou les tigres actuels et devaient certainement se nourrir de jeunes dinosaures. Et puis la police allemande abat un bison sauvage alors que cet animal n'avait pas été aperçu dans le pays depuis plus de 250 ans. L'histoire racontée par Tabel Spiegel est cocasse. Le bison, apparu aux abords du village de Lébus, avait certainement été originaire du parc de Warta en Pologne où vivent 3000 bisons sauvages. Les autorités l'ont certainement repéré et abattu pour des raisons de sécurité. Immédiatement, le WWF a porté plainte contre les forces de l'ordre de la petite ville du Brandebourg. Le ministre de l'Environnement de Brandebourg a déploré cet acte et précisé en interview que cet animal n'était absolument pas dangereux pour l'homme. Si c'était le cas, ajoute-t-il, la Pologne, dont l'animal est le symbole, devrait être classée en zone dangereuse.